RMC, Intégral Tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Ben non.
Christophe Cessieux.
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras.
Là, pourtant, on s'en rapproche de cet Arc de Triomphe puisque nous sommes entrés à nouveau en France. Nous sommes à Cambrai, dans le nord du pays, mais on va pas rallier tout de suite Paris. Hein. Faut faire un petit détour par la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes pour arriver à Paris dans un peu moins de 3 semaines. Maintenant, Fred, 66 km de l'arrivée. Les choses sérieuses vont commencer à quel moment dans cette étape?
Dans 20 km très exactement. Un quatuor ouvre toujours la route depuis le premier kilomètre tout à l'heure à la sortie de Serein en Belgique. Voici le peloton du Tour de France sur le territoire hexagonal dans le département du Nord. On rappelle que Frédéric Brun et Perrick Kemener, les deux Français, sont accompagnés du Hollandais Liew Westra et du Belge Thomas De Gendt à l'avant de la course avec au dernier pointage toujours 3 minutes d'avance. Donc on est à 66 km de l'arrivée et le deuxième secteur pavé du jour interviendra dans 20 km. Il y en a eu un de franchi tout à l'heure. Il était plutôt soft, dira-t-on, et on a pu voir que les Sky en menaient grand train avec Christopher Froome, tous deux jaunes vêtus, qui avait donc sonné la charge et qui est passé sans aucun problème sur ce premier secteur pavé, le deuxième dans moins de 20 km maintenant.
Alors que Lucho nous a rejoint avec sa Lucho mobile et il a ramené quelques victuailles. C'est très bien, la mission est accomplie pour aujourd'hui. C'est l'heure de la question du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. David Opazinski est avec nous. Salut David.
Bonjour
les gens,
bonjour à tous.
Ça va, en pleine forme David?
Très bien,
ça va très bien. Alors aujourd'hui on va se poser la question de savoir où en est Thibaut Pinot. Est-ce qu'il est déjà out dans ce Tour de France? Est-ce qu'il a déjà abandonné toute velléité de monter sur le podium, de remporter le Tour? Bon, ça on sait que ce sera compliqué, ça l'était déjà au départ du Tour, mais là avec ce qui s'est passé, ces deux jours terribles, l'un de ses coéquipiers out, en plus c'était son poisson pilote hier, il l'a vu chuter juste devant lui, ça se complique,
oui,
singulièrement pour Thibaut Pinot.
Oui.
Est-ce que le Tour est fini pour Pinot, clairement?
Non, parce que évidemment tout reste possible dans une deuxième partie de Tour avec des sommets, et on a vu qu'il était en forme ces dernières semaines pour briller dans la montagne. En revanche, oui, comme vous le soulignez, c'est vrai que mentalement, moralement, ça va peut-être être difficile, surtout dans les prochains jours. Là, il va falloir vraiment voir comment il arrive à les gérer, parce que ils ont pris un coup, un gros coup au moral, et les coureurs de la FDJ, oui, avec cet abandon spectaculaire et assez sérieux, quand même.
Ouais. Ça me rappelle le scénario d'il y a 2 ans. J'ai pas envie de revenir sur cet épisode, mais lorsqu'il est décroché dans une longue descente dans les Pyrénées.
Ouais.
Et qu'il a débranché dans la tête, il a dégoupillé,
oui.
Et on n'a plus jamais retrouvé le Thibaut Pinot de l'année précédente, d'il y a 3 ans, quand il avait gagné son étape de Porrentruy. Est-ce que c'est pas un cours, c'est dur à dire, est-ce que c'est pas un coureur susceptible de se liquéfier comme ça, émotionnellement et donc sportivement, physiquement?
C'est quelqu'un d'entier, donc aussi de fragile. Et après, c'est vrai qu'il faut relativiser les choses. Et c'est Marc Madiot qui le disait ce matin. Ils ont tellement eu peur pour William Bonnet et d'une blessure plus sérieuse qu'elle n'est, hein, puisqu'il est touché au cervical, le coureur de la FDJ. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont très très vite relativisé les choses. Et c'est ce que Marc Madiot a dit à ses troupes hier soir. Et ce matin, les gars, finalement, on a de la chance dans cette affaire, parce que ça aurait pu être dramatique. Et cette minute et demie, finalement, perdue hier, c'est pas si grave.
Cyril qui était en ligne tout à l'heure, justement, avec Marc Madiot, son ancien coureur, ils sont restés liés tous les deux. Cyril, sans vouloir dévoiler la teneur de votre discussion, mais que t'a dit Marc à propos de Thibaut ce matin? Est-ce que vous en avez parlé ou non?
Bah, pas spécialement, c'était un peu plus général. J'avais surtout besoin des renseignements pour ma musette, donc j'ai parlé de la musette, mais en fait ils sont pas véritablement inquiets pour William, d'une part, parce que bon, il est entre de bonnes mains, ils ont continué à faire des investigations ce matin avant de savoir exactement comment ils allaient gérer la suite. Est-ce qu'ils opèrent pas, enfin le travail, on va dire, non pas routinier mais habituel dans ce genre de situation. Et je l'ai plutôt trouvé détendu, il était avec Frédéric Grappe, et c'est vrai que on n'avait pas le sentiment qu'il vivait indépendamment de la chute, mais une tragédie par rapport à la course. C'est-à-dire qu'ils se sont un petit peu sortis du Tour de France en tant que tel, et en se disant, ben, écoutez, on va se reconcentrer maintenant sur la course, on va se reconcentrer sur Arnaud Demare, pour lequel ils attendent beaucoup de choses aujourd'hui.
Là, on parle de la FDJ. Cyril, on était sur Thibaut Pinot, clairement. On a été un petit peu provoque, peut-être un peu dur, à évoquer cette tendance de Thibaut Pinot à décrocher mentalement d'une course comme le Tour de France, où l'on demande un investissement mental optimal. Est-ce qu'il est out, Cyril, Thibaut Pinot ?
Ah, je pense que le compteur tourne pas dans le bon sens pour l'instant. Il a quelques étapes quand même pour se refaire, parce que n'oublions pas, hein, il part sur le Tour de France, il réalise un très très bon chrono, surtout pour lui qui n'est pas un vrai spécialiste. C'est l'euphorie et il finit et il reprend du temps à tous les principaux favoris de ce Tour de France. Et puis en deux jours, c'est un jour une 23 et une 27 et après une 30. Donc il se retrouve pratiquement à 3 minutes au classement général. 3 minutes au classement général. Attendez, pratiquement pour le podium. Bon, on peut le dire, c'est cuit. Ou alors il faudrait qu'on laisse partir dans une échappée, qu'on considère que bon, on n'en est quand même pas là. Il vaut mieux avoir 3 minutes d'avance que 3 minutes de retard. C'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est ce qui lui permettra peut-être de réaliser quelques belles étapes de montagne. Et là, il faudrait justement qu'il arrive à se reconcentrer et à se remettre dans le jeu. Mais il ne représente plus un danger aujourd'hui pour le podium.
Ouais. David. Oui, ce qui serait intéressant pour lui, c'est de finalement de rien changer à la tactique prévue, c'est-à-dire de dans la montagne quand elle arrivera, eh bien d'attaquer quand il le pourra, et finalement tout ça lui servira d'une façon ou d'une autre, peut-être pour les prochains tours, mais en tout cas c'est de l'expérience qu'il reste à engranger et qui lui sera profitable.
Et on espère évidemment que le moral va suivre, parce que c'est très important le moral pour le sportif en général. On peut pas attaquer à tout va si la tête ne va pas, hein, Fred.
Les deux
sont indissociables.
On parlait de l'évolution de Thibaut Pinot au soir de la première étape. On était tout feu, tout flamme. On disait qu'il apprenait d'année en année. Il a bientôt tout vécu sur le Tour de France, à part le maillot jaune, évidemment. Mais c'est vrai que ce qu'il a vécu ces deux derniers jours continue de compléter sa panoplie de potentiel vainqueur du Tour de France. Tant pis pour les obstacles qu'il y a à franchir, ça s'appelle la vie.
Très bien, nous verrons donc la suite du Tour de Thibaut Pinot. On le rappelle aujourd'hui, loin à 2 minutes 58 au général. Merci David d'être venu. On retrouve évidemment tes papiers tous les matins. Tes excellents papiers d'ailleurs dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci.
Tous les matins, ça coûte pas cher en plus.
En plus.
Ok, Fred, 61 km de son de l'arrivée. Nouveau top course.
RMC Top Course.
Voici les coureurs à 15 km de l'enfilade des 6 derniers secteurs pavés. Aujourd'hui, il pourrait y avoir à nouveau de la casse après deux étapes particulièrement chahutées. La route est humide, 61 km à parcourir, toujours un quatuor de tête en direction de Cambrai. Frédéric Brun et Perrick Kemener, les deux Français, accompagnés du Hollandais Liu Vestra et du Belge Thomas De Gendt. Écart stabilisé sur un peloton qui occupe toute la largeur de la route. Les principaux prétendants au classement général sont à l'avant et occupent toute la largeur de la chaussée. 3 minutes d'avance à 61 km de l'arrivée.
Très bien, 16h16. On va accueillir un sale type maintenant, puisque c'est l'heure des paris.
Les paris RMC Tour de France.
Ce sale type, c'est Benji Ramagé qui, depuis 2 heures maintenant, il a rien d'autre à foutre. Vous voyez, au bureau, il y en a qui sont payés à rien faire quand même. C'est le cas de ce garçon-là, Benjamin Ramagé, qui, depuis que Pierre-Yves Leroux a envoyé une photo tout à l'heure sur Twitter de notre petit studio RMC, accompagné de Marion Rousse, ne cesse de se moquer de ma tenue vestimentaire. Ça va, sale type ?
Salut, messieurs, ça va très bien. Merci,
salut,
Pile.
Benji.
Merci,
salut.
Pile, pour la passe d'ess. Bien joué.
Toi, je te retiens aussi. Non, en plus, ça partait d'un bon sentiment.
Oui, exactement. Ah, mais il a l'esprit mauvais.
Non, mais tu t'imagines.
Un Breton et un Normand, forcément, ça peut faire comme ça.
Alors, nous, on est un peu dans l'intégrale Tour de France, intégrale Tour de Gaulle. Avec Benji, c'est un peu différent. C'est plutôt lui qui. Vous voyez, Avrel ? Vous imaginez Avrel ? Le mec à 2 mètres, là, qui mange du savon.
À la différence d'Avrel, c'est plutôt toi qui dis tout le temps quand est-ce qu'on mange, Christophe.
Ça, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas
nous dire sur les favoris de cette étape?
Eh bien, le favori, c'est désormais John Degenkolb. C'est un petit peu changé au niveau des cotes. Hier, ce n'était pas forcément Degenkolb qui était le favori numéro 1. Il est à 4,70 désormais devant Van Mark qui est à 6 et Van Avermaet qui est à 8. Donc on retrouve les coureurs donnés par la Dream Team RMC aux avant-postes au niveau des cotes, Christophe.
Très bien, on va rappeler les codes de enfin les vainqueurs que vous avez donnés.
Les vainqueurs, oui.
Ouais.
Moi j'ai donné le gorille.
Greipel. André Greipel.
Ouais. Il est dans le peloton là.
Comme tout le monde.
Non mais bon, il aurait pu chuter. Attends, j'arrive moi.
Ah oui, c'est sûr. Voilà. Non, mais je crois qu'il faut arrêter d'abuser de la jupilaire.
Non, de la jupilaire.
Jupilaire. Ok, donc André Greipel, ouais, le gorille qui va passer les pavés pour toi.
Hein. Fliqué. Oh bah tiens. Il a fait des beaux paris roubés, Greipel. Hein. Il est pas nain sur les pavés, c'est un bon spécialiste.
Spécialement la dernière édition, effectivement.
Et oui.
Il est capable de visser très fort et il ne pètera pas, comme disent les coureurs
sur
aujourd'hui.
Sur sa condition, Fred, un sprint gagné, je le vois bien rééditer son exploit.
On n'est pas souvent d'accord, Luc, mais je te rejoins sur ton pronostic. Voilà.
Ah, merci. Tu vas peut-être conforter ton maillot jaune. Tu vas peut-être conforter ton maillot jaune. Sait-on jamais. Cyril, ton favori du jour?
Eh bien, je suis toujours fidèle, donc je reste sur Van Avermaet. N'oubliez pas que dans le final de cette étape, il va y avoir le match pour aller chercher le maillot jaune pour essayer de déshabiller Christopher Froome.
Ah oui, ça, c'est pas facile. Dis Chris, ça sera plus simple déjà.
Froome,
c'est une petite indication. Il y a beaucoup de vent de côté.
Ouais.
Au final.
Fred, ton vainqueur de l'étape, donc André Greipel.
Luc en a très bien parlé. Oui, Greipel qui arrange Sagan et Cavendish l'autre jour à Zélande semble dans une condition optimale.
20 km/h devant latéral. Georges sur la moto RMC, ton favori pour l'étape du jour?
Mon favori, c'est Sepp Van Mark, le Belge qui a un peu raté ses classiques Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et qui, s'il a un objectif sur ce Tour de France, c'est forcément cette étape-là. En plus, on a vu les Lotto Jumbo.
Il a pris le départ.
Oui. Ah bon, d'accord.
Pierre-Yves Leroux.
J'avais misé sur Degenkolb ce matin.
John Degenkolb, vainqueur, dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Moi, j'avais donné, je crois, Tony Galopin.
Je comprends mieux maintenant pourquoi le short et en plus le prono Tony Galopin. Je comprends mieux avec la photo de pile, Christophe. T'es un malin quand même.
Il se met Marion Rousse dans la poêle, c'est bien,
bien
ça.
Bien joué.
Monsieur a du métier,
attention.
Spécialement sur le tour.
Bon allez, dégagez-moi tout ça, on se retrouve tout à l'heure.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Très bien. Je pense me prendre le générique dans la figure jusqu'à la fin du tour. Georges sur la moto. Que se passe-t-il sur cette course? Pour l'instant, nous approchons des secteurs pavés décisifs et en tête de course, toujours avec les échappés, je crois. Hein.
Oui, exactement, juste derrière les échappées, alors qu'on est dans le passage de Le Quenois, cette commune fortifiée au rempart qu'on a restauré il y a pas très longtemps, derrière le groupe de tête où on a ressenti quelques petites gouttes de pluie il y a quelques instants. La chaussée était un peu humide, comme le disait Fred tout à l'heure. Là, on commence à avoir peut-être quelques petites gouttes. Il y a le vent qui soufflait de côté, hein, comme le disait Lucho tout à l'heure. Et c'est vrai que là, le ciel se fait de plus en plus menaçant. Devant nous, en tous les cas, c'est gris, c'est de plus en plus sombre. Donc on s'attend à avoir peut-être quelques pavés mouillés dans quelques instants, dans une dizaine de kilomètres pour le deuxième secteur pavé de cette étape.
Fred, il y en a certains qui se sont fait quelques frayeurs.
Oui,
ça
commence à frotter. On est à 57 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 11 km d'une sacrée succession de secteurs pavés. Il reste plus de 11 km pavés avant l'arrivée à Cambrai et les équipes de leaders sont en train de se positionner à vitesse grand V à l'avant du peloton. À droite, les Katiusha de Joaquin Rodriguez et d'Alexander Kristoff. Il n'apparaît pas dans vos pronostics, me semble-t-il, celui-là, le Norvégien. Il y a là les Sky du maillot jaune Christopher Froome, ainsi que les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador, et Peter Kenhoff, le champion de Grande-Bretagne, coéquipier de Christopher Froome, vient de passer tout près de la correctionnelle en contournant un îlot directionnel. Ce n'est peut-être pas sur les pavés que la course sera la plus dangereuse, mais dans l'approche, on est à 10 km du prochain secteur.
Ok, alors avant que la course ne démarre vraiment dans quelques minutes, on va vous donner, comme tous les jours depuis le départ de ce tour, on va vous donner quelques conseils. En tous les cas, le druide va s'adresser à l'un des coureurs du peloton. C'est la recette du druide. Le druide qui va s'adresser dans quelques instants à coureur. Pour l'instant, le générique.
RMC Intégral Tour. La recette du druide.
Cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force.
Alors, notre druide, je crois, Cyril, aujourd'hui que tu t'adresses à Arnaud Demar, le sprinter de la formation de la FDJ.
Oui, alors plus précisément à l'ensemble de l'équipe. Hein. Donc là, on a tous nos coureurs qui sont, bien sûr, dans le pullman. Donc voilà. Alors... Les gars, bon, on va peut-être pas se raconter d'histoire, on est quand même un petit peu à la rue, là, c'était peut-être un petit peu trop beau, là, le jour du prologue. Bon, il va falloir un petit peu qu'on se remette dans le sens de la course, hein. Parce que, ben là, si on n'a pas un fil conducteur, ça va mal se passer. Bon. Alors, bon, c'est vrai que vous avez tous votre pote qui est à l'hosto, il va peut-être falloir y penser un petit peu, mais ça, je sais que vous y pensez. Mais bon, il suivra sûrement pas l'étape à la télé aujourd'hui, puisque malheureusement, il risque d'être dans le coltard. Mais ce qui serait bien quand même, c'est que quand il va se réveiller et qu'il demandera ce qui s'est passé sur le tour, ben, ce serait quand même formidable qu'on lui dise, eh bien, Arnaud Demar l'a emporté au sprint. Et si c'est pas Arnaud, peut-être un autre. Alors, on va tout de suite faire le point sur le classement général. Aujourd'hui, le classement général, on s'en fout. De toute façon, c'est plié pour l'objectif de départ, aller sur le podium, 3 minutes. Bon, il y aura sûrement d'autres ouvertures. Mais en ce qui concerne le classement général, aujourd'hui, on oublie, on fait l'étape. Et on va la faire avec une paire, vous voyez ce que je veux dire, les gars, hein. Donc on va bosser pour Arnaud, c'est une arrivée qui lui convient, ça monte légèrement, il y a des petits pavés sur cette dernier kilomètre. Alors, on va pas laisser Thibaut tout seul quand même sur les pavés. On va quand même lui mettre deux coureurs, hein. On va lui mettre Ladanius et Vaugrenard, tous les autres au service de Arnaud. Alors, en cas de crevaison, puisque nous on sera loin, parce que malheureusement, comme on est loin en général, la bagnole elle est très loin, donc je pourrais pas dépanner. Donc, on passe les roues à Arnaud, on passe les roues à Morabito. Bon, faut quand même le garder dans le classement général. Et puis bien sûr à Pinot. Donc là, on y va. On pense à notre pote et on pense que le Tour de France, quand même, il faut pas qu'on le rate parce qu'on a été à la rue depuis 2 jours. Allez. On se remet dessus, les gars, on y va, et on y va avec une paire de quoi ? On y va avec une paire de couilles, les mecs.
Eh ben voyons, mais comme il y va, le druide. C'est comme ça que tu t'adressais à tes coureurs, Cyril ? Il faut de temps en temps un peu...
Non, là je suis dans le politiquement correct.
D'accord, c'était plus sévère et plus sérieux.
Je pense que si vous posez la question à Bernard Laporte, il vous dira à peu près la même chose.
Oui, ça, exactement. Très bien, merci monsieur le druide. La recette du druide, donc les conseils de Cyril Guimard qui s'adresse à un coureur ou à une équipe en particulier. Donc aujourd'hui, l'équipe de la FDJ, 16h25. Allez, dans un instant, nous revenons car nous sommes à 54 km de l'arrivée. Dans 8 km, l'entrée dans les secteurs pavés décisifs de cette 4e étape du Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 4e étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, nous avons quitté la Belgique. Retour en France en direction de Cambrai, l'étape des pavés, avec les premières gouttes de pluie qui se sont abattues, qui s'abattent encore sur le peloton. La pluie sur une chaussée très glissante, évidemment, parce que depuis plusieurs jours, il a fait très chaud sur le nord de la France. Et du coup, c'est une véritable patinoire que cette route du Tour de France, Fred.
Oui, spécialement, évidemment, dans les virages, ça glisse. Et un coureur de l'équipe Astana, un coéquipier de Vincenzo Lorenzo Nibali à 52 km de l'arrivée est allé à terre. Ce n'est pas le vainqueur sortant. Dan Martin a été retardé par cette chute. Richie Porte est en train de passer par la fenêtre. Attention, il y a déjà du dégât alors que l'on est à 5 km du prochain secteur pavé. Bordure, du vent souffle de côté. Georges doit se régaler sur la moto.
Ah bah justement, on va aller retrouver Georges Quirino à l'avant de cette course. Georges.
Oui, effectivement, on a dépassé l'échappée il y a quelques instants. Ça revient très fort derrière dans le peloton avec ce vent de côté qu'on a constaté depuis un petit moment lorsqu'on était en pleine campagne. Le vent qui vient sur la gauche des coureurs et la pluie qui s'est un petit peu calmée là. Mais on a toujours un ciel aussi menaçant au-dessus de nous. La chaussée est un petit peu détrempée. Donc il n'a pas plu depuis le début de cette étape et il commence à y avoir quelques gouttes au moment où on s'attaque au secteur pavé. Les coureurs doivent se dire qu'ils sont maudits aujourd'hui alors qu'on est à moins de 5 km maintenant pratiquement de cet enchaînement de secteur pavé qui les emmènera jusqu'à l'arrivée.
Pierre-Yves, qu'est-ce que tu voulais me dire?
Je souris simplement des photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
C'est sur le hashtag RMC Live, je viens de publier une photo magnifique de Luc Leblanc en train de déguster un sandwich au maroilles. Alors non seulement il nous a enfumé le camion, et en plus il a une...
Là, si je comprends bien, vous vous marrez, vous regardez les photos au moment où la course rentre dans la partie la plus complexe.
Mais non, t'inquiète, le druide, Fred veille et puis...
Oui, mais je sais pas si vous avez remarqué, nous avons le maillot jaune qui est relativement loin de la tête du peloton.
Aux alentours de la 40e place.
Alors que nous sommes à 3 km de l'entrée.
Eh oui, on est bien d'accord. Attention, ça frotte à l'avant du peloton. Effectivement, les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador sont en train de visser. Et derrière, ça casse un peu. Ça va revenir juste avant le prochain secteur. Mais on est à 4 km du deuxième secteur pavé du jour. On aperçoit les BMC qui sont là. On aperçoit les Giant Alpecin pour John de Gelkolb et une chute à l'instant à l'arrière, une chute d'un coureur de l'équipe Movistar, un coureur de la formation Trek également. Pas de gros bobos, mais vous le voyez, la tension est à son top à 3 500 km du prochain secteur. On essaye de se positionner au mieux. On a vu Lars Boom, le vainqueur de l'étape de l'an passé, le coéquipier désormais de Vincenzo Nibali chez Astana, venir positionner Nibali de la meilleure des manières. Ça frotte. On a vu Peter Sagan prendre ses relais en compagnie de l'italien Benati pour Alberto Contador au sein de la formation Tinkoff Saxo. Tony Galopin est en 5e position à l'avant de ce peloton. Warren Barguil fait partie du train noir de la Giant Alpecin, lui qui est un grimpeur français chez les Allemands et Hollandais de Giant. Il est coéquipier de Degenkolb. Tout le monde frotte le plus fort possible pour être le mieux placé dans des secteurs pavés qui...
Oui, et From se bat pour revenir en tête.
Et oui, des secteurs pavés qui, météo oblige, seront glissants, a priori, puisqu'humides.
Avec Vincenzo Nibali donc, qui fait sonner la charge de la formation Astana. Deux équipiers seulement, Cyril. Nibali qui, l'an dernier, on s'en souvient, s'était remarquablement bien comporté sur les pavés. Il avait commencé à tricoter son maillot jaune ce jour-là.
Hein. Oui. Il avait pris quelques secondes déjà en Angleterre, rappelez-vous, en sortant dans les derniers kilomètres. Mais là, bon, j'ai presque envie de dire, c'était anecdotique sur les portions pavées. Il avait impressionné tout ce monde et surtout il avait montré une dextérité qu'on ne lui connaissait pas, puisque c'est pas un spécialiste de Paris, ou du moins il n'y venait pas. Et à la réflexion, on s'est rendu compte que il était déjà naturellement très adroit sur un vélo, mais qu'en plus c'était un ancien vététiste.
D'ailleurs, c'est surprenant lorsqu'on remarque les quatre fantastiques et tous les autres grands favoris de ce Tour de France. Il y en a aucun qui est jamais venu sur les pavés de Paris-Roubaix, Fred. C'est vraiment une course que n'apprécient pas les grands spécialistes des courses par étapes.
Le cyclisme international et professionnel, c'est hyper spécialisé. Aujourd'hui, on ne prend plus le risque de compromettre une saison et donc un Tour de France avec une chute sur Paris-Roubaix. Il y a beaucoup de chutes. Ces coureurs-là n'ont pas forcément la physiologie pour rivaliser avec les solides gabarits qui font la loi sur ce genre de course pavée, que ce soit Paris-Roubaix ou Tour des Flandres. Et on a fait notre deuil depuis quelques quelques années maintenant de voir des coureurs capables de briller autant sur les grands tours que sur les classiques flandriennes que sont les Flandres ou Roubaix.
On s'aperçoit également que Quintana n'est pas dans les premières positions du peloton. Quintana. Alors que nous sommes à moins de 2 km de l'entrée.
Et là, c'est là qu'il faut commencer à se placer. Il ne faut pas tarder là.
Il ne faut plus gesticuler, il faut être bien en ligne.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Thibaut Pinot et des principaux français, Fred?
Pas placé au mieux, me semble-t-il. Cyril, tu me contredis.
Non, je ne contredis pas.
Ouais, il a du mal à frotter, hein, Thibaut Pinot, quand même. Un petit mot peut-être avec Georges, qui est à l'entrée du deuxième secteur pavé. Humide ou pas humide, Georges, les pavés aujourd'hui?
Il y a quelques gouttes là, il y a quelques gouttes qui tombent sur nous. Il y a un fort vent de côté, surtout à l'entrée du secteur pavé là, sur la gauche des coureurs. Et on voit les véhicules et les motos qui sont en train de rentrer. On voit la poussière qui s'envole. Donc ils sont juste un petit peu humides, je pense, ces secteurs pavés. Mais là, ce qui nous impressionne surtout, c'est le vent. Hein. Le vent, on voit les drapeaux. Il y a énormément de monde sur le bord du secteur pavé. On voit des drapeaux britanniques là qui s'envolent. Vraiment, ça va rajouter de la nervosité pour les coureurs.
Ok, bah tu as tout dit, ça va casser prochain secteur pavé.
Ça c'est sûr. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour l'instant on remonte vers le nord et qu'à la sortie du secteur pavé, il va y avoir une épingle à jouer. On va repartir avec le vent de l'autre côté, puisque là on va replonger vers le sud.
Donc il pourrait à nouveau y avoir des dégâts, des cassures dans ce peloton du Tour de France. 46 km 300 de l'arrivée, 28 secondes d'écart en faveur des 4 échappés qui vont être mangés tout cru d'ici quelques secondes par l'avant-garde du peloton. Georges Quirino sur la moto RMC qui se trouve à l'entrée du secteur pavé, le premier secteur pavé décisif de cette étape du Tour de France.
À l'entrée du secteur 6 qui est à Famar, on voit le peloton en file indienne, ça va très vite. Voilà les premiers coureurs qui arrivent sur le pavé, ce sont des coureurs de l'équipe Astana que je vois en deuxième position qui sont en train de l'échappée qui rentre. Là il y a beaucoup de monde hein, sur le secteur. Il y a déjà une cassure dans l'échappée avec Vestra qui est devant, notamment Degent qui est en train de lâcher quelques hectomètres, et le peloton qui suit derrière, voilà qui est là devant nous. Le peloton qui rentre, il est plus qu'à une centaine de mètres derrière l'échappée. Je vois le maillot de champion du monde de Gartowski, me semble-t-il, dans les premières positions. Oui. Le maillot jaune de Christopher Froome est un petit peu loin, aux alentours de la 30e position pour Christopher Froome. Là, le peloton en file indienne, ça continue de rentrer et là, ça va très très vite. On voit la poussière qui est en train d'être emmenée un petit peu partout dans ce secteur pavé. C'est rentré très très vite. Ça rentre comme des sauvages, disait hier Nicolas Portal, le directeur sportif de Sky. C'est ce que l'on voit sous nos yeux.
Alors Fred, Chris Froome est mieux placé que ça. En tous les cas, il est en train de remonter vers l'avant du peloton.
Oui, il est en 10e position. Juste devant lui, Vincenzo Nibali. Il y a Edvald Boasson-Hagen aussi, le Norvégien de l'équipe MTM Kubeka. Sepp Van Mark, le Belge de l'équipe Lotto Jumbo, emmène tout ce petit monde. On aperçoit Luca Paolini, l'Italien de l'équipe Katusha. Ce sont des purs spécialistes qui sont en train d'emmener le peloton. Et derrière, on s'accroche comme on peut. Pas de dégâts pour l'instant. Pas de chute, pas de crevaison à notre connaissance. Les cassures vont intervenir sans doute à la fin de ce deuxième secteur pavé du jour. Ce n'est pas le plus compliqué, il dure 1200 mètres seulement.
C'est
Tony Martin, me semble-t-il, le solide rouleur allemand qui emmène désormais le peloton. Martin qui fait le travail pour Kwiatkowski, mais pour lui-même aussi. Martin qui était ce matin à une seconde seulement de Christopher Froome au classement général.
La bagarre a commencé. Cyril, c'est pas encore décisif, mais on voit qu'il y a quand même des spécialistes ou les garçons qui veulent vraiment en découdre aujourd'hui, et puis d'autres qui ne sont vraiment pas à l'aise sur ces pavés qui sont vraiment une saloperie, comme le disait une cochonnerie ou une bêtise, comme le disait Bernard Hinault. Hein.
Non, c'est très bien, ça n'est pas une bêtise, et au moins là on vibre, on est dedans avec Nibali là qui est dedans. Enfin, Sepp Van Mark, je crois qu'on avait notre ami sur la moto qui l'avait mis parmi ses favoris, et puis on voit le maillot jaune qui est ramené maintenant sur le bitume, qui est ramené par un de ses équipiers, et déjà de nombreuses cassures. Pas de Française des Jeux dans cette première partie du peloton. Pas d'AG2R non plus. Pas de Cofidis. Les Français sont relativement loin. Il va falloir se replacer sur les quelques kilomètres de Macadam où on se situe actuellement avant d'attaquer le prochain secteur pavé.
Mais vont-ils avoir la possibilité de se replacer devant? Ça continue de rouler, même si ça regarde un peu. C'est toujours les coéquipiers de Nibali qui sont devant.
C'est pas n'importe qui. C'est Lars Boom, le vainqueur de l'étape pavée l'an passé à Arambert sous la pluie. Pour l'instant, les pavés sont secs, mais Lars Boom est toujours aussi à l'aise sur les pavés et il emmène parfaitement Vincenzo Nibali. Nibali qui a là une recrue de choix. Lars Boom arrivé de chez Belkin cet hiver. Joli coup réalisé par Astana en vue spécialement de cette étape.
Oui, et Peter Sagan qui se bat comme un malade pour ramener en tête Contador. Alors que ça
a failli aller.
Eh oui, mais là, chuter, ça frotte. Hein. Il faut pas être manchot.
Ça a failli chuter. Là,
oui, oui. On a vu un coureur de la formation à G2R tout de même dans ce premier peloton. Quintana, a priori, est là. Il n'y a pas de pour l'instant de grands battus. Hein.
J'ai pas vu Pinot encore.
Non. Pinot n'est pas là. Vraisemblablement, il n'est pas là. Il est peut-être un petit peu derrière, mais ça va peut-être pouvoir rentrer. Les écarts ne sont pas grands pour l'instant.
Frère, oui, mais on peut d'ores et déjà annoncer à 43 km de l'arrivée que ceux qui ne sont pas dans les 60 premières positions du peloton ont course perdue et peut-être davantage encore parce que les Lotto Jumbo, l'équipe hollandaise qui portait auparavant le nom de Belkin, le nom de Rabobank, s'est mise à l'avant pour étirer le peloton relayé en ce moment par les Astana. On aperçoit Thibaut Pinot
qui revient sur
la
côté
de la route
sur le côté
sans équipier, sans équipier, mais si ça rentre de l'arrière, les Lotto Jumbo se sont un peu relevés. Ils ne sont plus que deux Astana à emmener le peloton. Derrière, c'est en file indienne.
Ouais, il n'y a plus qu'une soixantaine de cours.
Absolument, pas plus que ça. C'est cela. Si on était derrière, si on était après la 60e position dans ce peloton à la sortie du secteur pavé à 45 km de l'arrivée, la course semble finie. On a là une première sélection de fête à 43 km de l'arrivée.
Alors que les hommes de tête n'ont plus que quelques secondes d'avance, 10 secondes au dernier pointage sur l'avant-garde du peloton qui roule à allure élevée, mais enfin c'est pas non plus
si ça tourne bien, je peux vous le dire.
Mais le piège entre les secteurs pavés, c'est le vent, les lignes droites avec le vent, et là ça va finir de faire la sélection encore plus.
Avec trois coureurs à l'avant de la course à 42 km de l'arrivée, Liu Vestra est toujours là, Thomas De Gendt, le Belge de l'Auto Soudal, et Perrick Kemener chez Europcar. Notons la présence donc à l'avant depuis le premier kilomètre de deux coureurs qui pourraient être des émissaires, en tout cas des soutiens pour leur leader, Liu Vestra, hollandais de l'équipe Astana, qui sera d'une très grande utilité dans les kilomètres qui viennent pour Vincenzo Nibali, coureur de la formation Astana. Idem pour De Gendt, qui va protéger les intérêts de Greipel pour l'étape et de Galopin pour le classement général. Perrick Kemener, lui, est là pour faire briller le maillot Europcar. Notons la présence sur le cintre de Perrick Kemener de frein de cyclocross. Il a deux paires de freins sur son vélo. C'est un vélo spécial pavé. Tous les leaders du peloton, les favoris pour le classement général, se sont arrêtés dans les kilomètres qui ont précédé les secteurs pavés, se sont arrêtés pour changer de vélo. On a pris le départ à Serein avec un vélo classique et au fil des kilomètres, on s'est arrêté pour aller prendre un engin spécial Paris-Roubaix, spécial secteur pavé en tout cas.
41 km de l'arrivée, le prochain secteur pavé, Fred, dans combien de temps? Et là, ça va être plus dur, je crois.
Là, hein, dans 1 km à peine.
Alors on va rester ensemble.
C'est
hein.
Le troisième secteur pavé
dans quelques instants. Il me semble que Thibaut Pinot a pu récupérer l'un de ses équipiers, hein, Cyril.
Oui, l'un de ses équipiers. On aperçoit également, me semble-t-il, Boigny qui est revenu également dans cette... Dans ce premier groupe, Pierre Roland peut-être aussi, c'est en train de se regrouper avant l'attaque du prochain secteur.
Mais quand on est mal, quand on a déjà été dans une cassure, oui, en tout début de secteur pavé, Luc, oui, quand on ça s'annonce pas forcément bien. Hein,
quand on se fait sortir dans le premier secteur pavé et qu'on prend des cassures, c'est sûr que bon, si ça fait temporiser un petit peu devant, ils ont le temps de rentrer entre les deux secteurs pavés. Mais le prochain secteur pavé, ça sera exactement la même chose puisqu'ils seront aussi mal placés que le premier secteur pavé.
On y arrive.
Comme dans le premier secteur.
Allez, 40 km de l'arrivée, les trois hommes de tête, les trois échappés qui sont en train d'être repris, il ne reste plus qu'un seul homme, celui de la formation, voilà, Europcar.
On rentre dans celui de Quarrenin.
C'est Perrick Kemener, coureur breton de l'équipe Europcar, qui fait de la résistance à 40 km de l'arrivée dans le troisième secteur pavé du jour. Les Astana et les Sky à la barre pour respectivement Vincenzo Nibali et Christopher Froome, maillot jaune. Les Astana qui sont au nombre de 4 à l'avant du peloton, les Sky un peu plus nombreux à 6 avec John De Gelkolb et ses Giant Alpecin également présents. Les Etix Quickstep sont comme chez eux, ainsi que les Lotto Jumbo, la formation néerlandaise. Lars Boom est en train de faire exploser le peloton avec Vincenzo Nibali dans sa roue, un coureur de l'équipe Quickstep en troisième position, mais derrière il y a cassure. Sepp Van Mark, le belge de l'équipe hollandaise Lotto Jumbo, va faire la jonction, mais que c'est dur derrière.
Oui, c'est Barguil derrière qui essaye de rentrer.
Warren Barguil, le grimpeur breton de l'équipe Giant, qui est en train d'avoir Christopher Froome dans sa roue, en train d'essayer d'opérer la jonction dans un secteur pavé particulièrement vallonné. C'est presque plus qu'un faux plat montant. Nibali en tête du quatuor de tête pour l'instant. Nibali qui relaie Lars Boom avec un coureur de l'équipe Etix Quickstep dans sa roue.
Et Chris Froome qui tente de revenir.
Il se bat Froome pour rester au contact.
Ouais, ça y est, la jonction est effectuée. Un peloton en file indienne emmené par Nibali, vainqueur sortant du Tour de France, qui a évidemment des choses à rattraper, des secondes à rattraper. Mais Chris Froome a montré qu'il était bien l'homme fort de ce début de Tour de France en revenant.
Oui, mais il est juste.
Il y a encore des secteurs pavés, hein, Christophe.
Ça peut exploser,
effectivement. Ah oui, tout à fait.
Dans quelques kilomètres, Fred, donc troisième secteur pavé, 39 km 500 de l'arrivée. Le peloton en file indienne.
Il n'y a plus de cassure entre les quatre hommes de tête et le reste du peloton. On a 80 coureurs en file indienne dans ce troisième secteur pavé. Et ce qui est intéressant, au-delà des positions, c'est l'allure, le style des principaux favoris. Et comme l'an passé, presque jour pour jour, Vincenzo Nibali est sur coussin d'air. Son style est particulièrement adapté au pavé. Il voltige avec Lars Boom pour éclaireur en ce moment. Lars Boom qui vient de lui indiquer de passer. Lars Boom qui monte sa roue arrière à Vincenzo Nibali. Attention, problème technique pour le vainqueur de l'étape pavée de l'an passé. Il semble qu'il y ait crevaison pour le Hollandais de la formation Astana. Est-ce que Nibali va être esselé? En tout cas, ça a été très clair. On sort du troisième secteur pavé. Vincenzo Nibali s'est baladé, mais il a peut-être perdu un élément clé de sa formation Astana.
Ah oui, parce qu'évidemment, sans Boom, ce ne sera pas la même chose, Cyril, hein, si celui-ci est vraiment victime d'un incident mécanique.
Oui, mais... Vous savez, il y a d'autres équipes qui roulent. Il y a le maillot jaune à aller chercher. Vous avez les Quickstep qui embrayent à fond parce qu'il y a Tony Martin qui est là. On avait vu tout à l'heure Galopin qui était présent, lui aussi qui aimerait bien aller chercher le maillot jaune. Donc de toute façon, il y aura toujours des équipiers de ces coureurs-là pour faire en sorte que le rythme ne baisse pas pour que Froome saute.
Très bien, on va se quitter quelques instants et revenir rapidement, le plus rapidement possible sur la route du Tour, 38 km 300. Nous sommes en plein dans les secteurs pavés, la grande bagarre a commencé sur les routes du Tour. À tout de suite.
Jean-Jacques Bourdin est tous les jours sur RMC de 6h à 10h.
Fred, nouveau point sur la course, donc 38 km 100 de l'arrivée.
Avec les équipes, l'équipe Etix Quickstep qui est en train de compter les morts. Pour l'instant, il n'y a pas de morts, il n'y a que des éclopés, va-t-on dire, puisque les trois secteurs pavés qui ont été franchis, eh bien pour l'instant, on fait des attardés, mais pas de blessés. C'est bien heureux. Matteo Trentin, l'Italien, un vrai Flandrien chez l'équipe Etix Quickstep, est en train d'emmener le peloton avec John Degenkolb, idéalement placé, le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Peloton à nouveau groupé à 37 km.
Alors qu'on va attaquer le secteur de Verchin, et Contador est toujours bien calé dans la roue de Peter Sagan.
Oui, Contador qui peut compter sur des équipiers au même titre que Vincenzo Nibali et que Christopher Froome. Les BMC sont également présents de fort belle manière, bien représentés à l'avant du peloton. Les Etix Quickstep sont toujours là pour Kwiatkowski, pour Tony Martin surtout, puisque au-delà de la victoire d'étape ici à Cambrai, qui serait un succès de prestige en cette journée pavée sur les routes du Tour de France, il y a un maillot jaune à aller décrocher pour Tony Martin si d'aventure Christopher Froome affichait des lacunes trop flagrantes. Lui qui ne compte, Froome, qu'une seconde d'avance sur son dauphin Tony Martin au classement général. Il y aura deux courses dans la course aujourd'hui, une pour l'étape et une pour le maillot jaune. Nicolas Roche est en train d'emmener Geraint Thomas pour l'équipe Sky, avec Christopher Froome en troisième position. Les Sky relayés à l'instant par les Etix Quickstep. On est à nouveau dans un faux plat montant. Alejandro Valverde dans les 10 premières positions.
Regardez qui c'est qui roule en tête de peloton.
Ouais. Ce sont les Quickstep.
Très bien, 36 km 800. Cyril, on va s'interrompre quelques instants. On revient dans une minute, dans 10 secondes pour entrer dans le nouveau secteur pavé, celui de Verchin-Maugré. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Les 35 derniers kilomètres de cette quatrième étape du Tour de France entre Serein et Cambrai. Nous sommes dans les secteurs pavés. Les secteurs pavés qui font beaucoup de dégâts. On va faire un nouveau point de la situation avec Fred Adam, alors que le peloton se trouve dans le secteur pavé de Verchin-Maugré à Saulzoir. 1200 mètres à parcourir sur les pavés.
Quatrième secteur pavé. 35 km à parcourir et les BMC avec Daniel Oss, l'Italien, qui emmène le peloton en file indienne, de solides gabarits évidemment sur ce terrain de pur flandrien. Les favoris sont à l'avant avec John Degenkolb, avec Christopher Froome dans les 15 premières positions en permanence, entouré de Nibali et de Contador. Il y a du dégât à l'arrière avec, écoutez bien, Arnaud Desbarres, distancé, le sprinter de la FDJ, est à out pour la victoire d'étape aujourd'hui, également retardé, mais cette fois sur incident mécanique, crevaison il y a quelques instants d'Alexander Kristoff, le Norvégien, vainqueur du dernier Tour des Flandres, vainqueur de Milan-San Remo il y a un an. Il est en train de revenir dans les voitures à 34 km de l'arrivée. Il a dans sa roue le champion du monde Michal Kwiatkowski. C'est sauf qui peut dans ce quatrième secteur pavé et dire qu'il en reste 3 à 34 km de l'arrivée.
Cyril.
Oui.
Oui, je croyais que tu voulais intervenir. Non, j'ai pas compris.
Oui, on a. Il me semble que. Il me semble que Quintana est quand même dans le premier groupe. Là, on voit, il y a Ladagnos et Pinot également dans le premier groupe.
Ouais, dans les toutes dernières positions du premier groupe. Effectivement, pour Thibaut Pinot, le leader de la formation FDJ qui tente de s'accrocher. Il se bagarre aujourd'hui, Thibaut Lucho. On sait que c'est vraiment pas son truc, les pavés. On s'en rend compte, mais enfin, il essaie de rester au contact.
On l'a vu remonter tout à l'heure sans équipier. Bon, il est quand même pas si mal que ça. Hein. Il essaye de limiter la casse aujourd'hui, mais il faudrait qu'il remonte au moins dans les 15-20 premiers, maximum 20 premier pour pouvoir espérer rester dans le premier groupe pour l'arrivée finale.
Très bien, 33 km de l'arrivée, on est en train de sortir du secteur pavé, on va faire un nouveau point avec les coureurs, la formation BMC qui sont tous aux avant-postes, Fred. Hein.
Oui, une gueule de guerrier à l'avant du peloton du Tour de France à 33 km de l'arrivée. Pourquoi une gueule de guerrier? Daniel Oss, solide gaillard de la formation américaine BMC, porte les stigmates de la lourde chute collective d'hier, un bandeau blanc sur sa pommette gauche avec dans sa roue plusieurs coéquipiers de la formation américaine, le champion de Suisse Dani Lovis, on aperçoit TJ Van Garderen, l'américain Greg Van Avermaet en embuscade au classement général ce matin, lui qui peut rêver du maillot jaune ici à l'arrivée à Cambrai, et puis les Astana en nombre pour protéger les intérêts du vainqueur sortant du Tour de France Vincenzo Nibali. Christopher Froome est en 7ème position à 33 km de l'arrivée, on est à nouveau sur les pavés, il reste 3 secteurs pavés, le peloton on est à nouveau sur le bitume, pardon, le peloton qui ne compte plus qu'une cinquantaine d'unités, où l'on trouve les principaux favoris à la victoire finale.
Voilà, alors on peut ajouter également que Tulik et Coquart sont dans le premier groupe.
Les deux coureurs de la formation Europcar, c'est bien, qui font de la résistance. Voilà des coureurs qui, c'est vrai, aiment les courses du Nord également.
Voilà, et dans le deuxième peloton, il y a quand même pas mal de Français. On voit beaucoup d'équipiers de Thibaut Pinot, beaucoup d'équipiers également de Romain Bardet et de Jean-Christophe Perrault. 32 km de l'arrivée. Cyril, alors maintenant, est-ce que Nibali peut tenter de nouveau de faire la différence dans quelques minutes? On a vu que Chris Froome tout à l'heure était quasiment à la rupture, il a réussi à recoller à la roue de l'Italien et du petit groupe qui avait réussi à faire une petite cassure. Est-ce qu'il faut rééditer et tenter de lâcher à nouveau Chris Froome?
Oui, bien sûr, mais il faut essayer, c'est lui qui est leader, donc il faut essayer de lâcher, et cela va se faire vraisemblablement dans les deux prochains secteurs pavés, le secteur de Saint-Piton qui est à 26 km de l'arrivée, et lorsqu'on sortira du secteur de Saint-Piton, on va rentrer dans le plus long, 2 700 km, à 23 km de l'arrivée, le secteur de Kievi, 3 700 km, 1 500 km avant vous avez le secteur de Saint-Piton. C'est sur ces deux secteurs que ça doit exploser, si ça doit exploser.
Eh bien, on va voir si ça explose dans quelques minutes. Le secteur de Saint-Piton à 26 km de l'arrivée, dans 5 500 km, on revient rapidement sur la route du Tour pour nous faire vivre ces grands moments, ces secteurs pavés qui promettent une nouvelle fois dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.